Seigneur, nous te remercions parce qu'avec toi, chaque jour est un culte, chaque jour est une joie, car nous connaissons le Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons maintenant nous pencher sur la parole de Dieu. C'est d'elle, Seigneur, que nous comprenons comment vivre notre vie en Christ. Et merci aujourd'hui que nous pouvons entamer notre dernière partie sur le sujet de l'argent. Seigneur, que vraiment tu bénisses ta parole, car elle est vraie, elle est juste, elle est droite. Et nous te remercions d'avance. En ton nom, nous prions. Amen. Voilà, donc comme vous l'avez entendu et vous le savez, aujourd'hui, nous terminons une série commencée il y a 5 semaines intitulée « L'argent, qu'en dit la Bible ?». Nous arrivons donc à la 4e et la dernière partie ce matin. Donc si vous avez raté les premières 3 parties, vous pouvez aller vous adresser à la table d'accueil pour voir comment vous les procurer. Alors, pourquoi une série sur l'argent? Eh bien, parce que depuis presque 1 an, nous parcourons l'épître de 1 Timothée. Ceci est en fait le 25e message dans l'épître. Et le chapitre 6 dans lequel nous nous trouvons maintenant est quasiment entièrement dédié au sujet de l'argent. L'argent était un sujet important à l'époque où il a été écrit. L'argent est encore un sujet important aujourd'hui. Alors la première partie, sans rentrer dans le détail, que nous avons vue, était intitulée « L'argent, comment être contenté ?». Notre texte était 1 Timothée 6, le verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement ». Nous avons vu que le chrétien doit trouver son contentement dans le Seigneur et pas dans l'argent. La deuxième partie, nous avons vu « L'argent, comment le gagner ?». Et là, nous avons tout simplement vu les mauvaises manières de gagner l'argent, selon la Bible, et ensuite les bonnes manières de gagner l'argent, selon la Bible. Troisième partie, l'argent commence à s'en méfier. Et là, notre texte de base était 1 Timothée 6, 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Et donc, nous avons vu que l'amour de l'argent, pas l'argent lui-même, mais l'amour de l'argent est dangereux. Nous avons aussi vu l'antidote biblique au problème de l'amour de l'argent. Aujourd'hui, donc, la 4e partie, l'argent, comment le gérer ou comment le dépenser. D'accord? Alors là, c'est assez facile, vous me direz. Oui et non, d'accord? C'est parfois facile, mais parfois c'est moins facile de dépenser l'argent sagement. Alors, regardons en premier le principe. Comment gérer ou dépenser l'argent? Le principe se trouve au verset 17 à 19. Dans 1 Timothée 6, je lis. Paul écrit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce texte déjà est assez simple à comprendre. Paul s'adresse aux personnes riches qui étaient dans l'église à Éphèse et répond à la question « Comment les personnes riches doivent-elles gérer leur argent ?» Notez qu'il ne condamne pas la richesse en elle-même, ni les personnes riches. Ce n'est pas un mal que les personnes soient riches. Et ce texte que nous venons de lire décrit 3 principes que devrait suivre une personne riche lorsqu'elle considère comment gérer ou dépenser son argent. Alors nous n'avons pas passé beaucoup de temps, c'est un survol, car la plupart de ces principes, nous les avons déjà vus dans les premières 3 parties. Premièrement, l'attitude des hommes riches se voit au 17, verset 17. « Recommande aux riches au présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu. » Alors c'est tout simple. Il dit, écoute, si Dieu t'a béni avec beaucoup d'argent, premièrement, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas fier de l'être, ne te vante pas de l'être, ne te montre pas comme étant quelqu'un qui possède des richesses. Aussi, il dit qu'il ne faut pas mettre l'espérance dans ces richesses incertaines. Ça, on l'a déjà vu. Mais les richesses, on les a un jour, elles peuvent s'envoler en un jour ou en autre. Donc, ne pas mettre l'espérance dans ces richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu. Et cela, nous l'avons vu dans Matthieu 6. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Et ils doivent aussi reconnaître que l'argent qu'ils ont vient de Dieu. C'est ce qu'il dit. De mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. À la source, le chrétien réalise que ce qu'il a vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné le travail, la capacité de travail, et donc cela vient de lui. Donc ça, c'est l'attitude globale. Le privilège des hommes riches se trouve au verset 17b. Il dit de ne pas mettre donc son espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et ça, c'est très intéressant. Car là, Paul dit clairement que l'abondance que nous pourrions avoir, nous avons le droit d'en jouir. Nous avons le droit d'en jouir. Ecclésias 5, on l'a aussi vu, mais je le fais en rappel, verset 18 dit « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, et s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup de jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. » Voilà, on travaille, on reçoit un fruit de notre travail et nous avons le droit d'en jouir. Ça, c'est le privilège des hommes riches. Troisièmement, la libéralité des hommes riches, verset 18, recommande-leur de faire du bien. Oui, ils peuvent en jouir, mais ils ne doivent pas tout garder de manière avare. Regardez ce qu'il dit. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Ils doivent faire du bien, sous-entendu, avec la richesse qu'ils ont. Ils ont des moyens afin qu'ils utilisent ces moyens pour aider, pour faire des bonnes œuvres. Aussi, le prochain point, ils doivent être riches en bonnes œuvres, de nouveau, que leur argent leur permet de faire. Ceux qui ont de l'argent ont peut-être des capacités plus grandes d'aider les gens. Aussi, ils doivent avoir de la libéralité et de la générosité. Une part d'eux veut donner et aider. On y reviendra. Et ils doivent, bien sûr, ça on l'a vu la dernière fois aussi, s'amasser des trésors dans le ciel par ce moyen. Plus un homme riche est généreux avec ce qu'il a, quelque part, plus il s'amasse des trésors dans le ciel. C'est intéressant. Donc voici globalement le texte devant nous. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais continuer, d'accord ? J'ai envie d'aller dans le détail. Creusons un peu. La pratique. Ok, soyons vraiment clairs. Comment gérer mieux? Comment dépenser notre argent? D'accord? La Bible nous donne au moins 4 manières de dépenser notre argent. D'accord? Alors, on va les regarder. Numéro 1. Comment dépenser notre argent? En pourvoyant aux besoins de nos familles. En pourvoyant aux besoins de nos familles. La Bible est très claire sur ce point. Notre première responsabilité financière dans la vie est de pourvoir aux besoins de notre famille. Reculons d'un chapitre, 1 Timothée 5:8, et là nous avons le principe. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, regardez, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors là, c'est quand même fort. Alors nous avons déjà examiné ce texte, je ne vais pas rentrer dans le détail de nouveau. Tout ce qu'il dit, c'est que de négliger la responsabilité de prendre soin de sa propre famille pour un soi-disant chrétien, c'est pire que d'être un non-croyant, un infidèle. Ça, c'est vraiment grave, quoi, de ne pas prendre soin de sa propre famille. C'est comme si on a renié la foi. Alors, le contexte, c'est le soutien des veuves, vous vous rappelez probablement. Le problème se posait à l'église d'Éphèse, c'est qu'il y avait des veuves qui étaient dans le besoin. Et les veuves, à l'époque, n'avaient aucune manière de pouvoir à leurs propres besoins, car il n'y avait pas de système de sécurité sociale comme nous avons aujourd'hui. Si son mari mourait, une femme veuve pouvait soudainement être réduite à la pauvreté si elle n'avait pas d'économie substantielle. Donc la question s'est posée, qui devait aider ces veuves dans l'Église? Alors certains pourraient dire, ben, c'est l'Église. Ah, Paul dit non. Alors oui, mais pas tout de suite. Oui, peut-être. Non, la première responsabilité, c'était sa propre famille. L'Église, dit-il dans le chapitre 5 de Timothée, est appelée à intervenir dans l'aide d'une veuve, dans le besoin uniquement si la personne n'a plus de famille pour le faire, et encore sous certaines conditions évoquées dans le chapitre. Voyez-vous, l'Église n'était que le dernier recours d'aide après que tous les autres moyens aient été explorés et mis en pratique. Et ça, c'est le contexte de notre verset. Celui qui refuse d'aider sa propre famille est pire qu'un infidèle. Verset 8. Alors ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors prendre soin de sa propre famille, ben écoutez, c'est peut-être ses enfants, soi-même, son épouse, son époux, mais aussi peut-être ses parents, ses grands-parents, peut-être ses neveux, tantes, oncles, c'est la famille, c'est pas spécifié. Ça veut dire prendre soin de la vie quotidienne, nourriture, logement, vêtements, transport, éducation, soins médicaux, prévoyance pour l'avenir. Vous savez, nous pouvons aujourd'hui remercier le Seigneur pour nos systèmes de sécurité sociale modernes qui aident des femmes, des personnes comme des veuves à pourvoir à leurs propres besoins. Mais on sait aussi, par rapport à la crise qu'on vient de vivre ou qu'on est en train de vivre, que même des réserves peuvent s'évaporer très vite. Donc, mieux vaut être prévoyant, en plus des systèmes de sécurité d'État. Intéressant, dans Matthieu 15, Jésus gronde très fortement les pharisiens. Et au verset 3, il y a je vais lire au verset 1. « Alors les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, donc les pharisiens c'étaient les chefs religieux, « Pourquoi les disciples transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» Il leur répondit, Jésus dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions ? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. » Voyez-vous, le commandement ancien testamentaire était clair, nous devons honorer nos parents. Mais les pharisiens, pour contourner ce commandement, affirmaient ne pas pouvoir assister leurs parents financièrement parce qu'ils avaient consacré une certaine somme d'argent à Dieu qui, pour eux, soi-disant, était plus grand que leurs parents. Si on compare Dieu et un homme, Dieu est plus important. Donc je donne mon argent à Dieu, donc je ne vais pas aider mes parents. Ça, c'est plutôt tordu. Et Jésus leur dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Ta famille est le plus important. Tu dois prendre soin de ta famille, même avant de donner à Dieu. C'est intéressant ça, non? Donc, quatre manières de gérer, premièrement, en pourvoyant aux besoins de nos familles. Deuxième manière, de dépenser notre argent. Alors celle-ci, elle est vraiment populaire. Tenez-vous bien, en payant nos impôts. Ah, je sais qu'il y aurait vraiment un cri de joie, d'accord, de votre part. Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes, même les mauvaises autorités. Il n'y en a aucune qui est parfaite. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Voici le verset clé, verset 6, « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. » car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui leur est dû. Impôt à qui vous devez impôt, tribut à qui vous devez tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voici la bonne nouvelle. Lorsque vous payez vos impôts, vous obéissez à Dieu et vous devriez être dans la joie. Une autre petite chose à dire. Si vous payez beaucoup d'impôts, ayez une double dose de joie, parce que ça veut dire que votre salaire est très grand. Plus vous payez, plus vous êtes riche. Donc, plus vous payez, plus vous devriez vous réjouir. Ça, c'est vraiment une perspective chrétienne, on est d'accord. D'accord ? Très, très intéressant. Il y a aussi Marc 12, 13 à 17, je vous laisse lire ce texte où Jésus-même a payé ses impôts lorsqu'on lui a demandé. Troisième manière de dépenser notre argent. En soutenant nos familles, en payant nos impôts, et troisièmement, en payant nos dettes. En payant nos dettes. Romains 13, contexte, ce qu'on vient de lire, les impôts, verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » C'est ce qui est en train de dire, contexte, c'est l'argent. Contexte, c'est les impôts à l'État. Il dit « Ne devez rien à personne. » Si tu as une facture, paye-la. Si tu as des impôts à payer, paye-les. Ne dois rien à personne. Un petit verset assez intéressant. Dans 2 Rois 4, 7, je vais vous le lire. Un miracle est fait. Verset 7, elle apporta à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qu'il restera. C'est intéressant que Élisée fait un miracle et lui dit, va, donc il produit l'huile, va, paye ta dette. Pour lui, c'est important que cette femme paye sa dette. Et le miracle a été exécuté dans ce contexte. Alors, peut-être vous allez poser une question, oui mais John, alors si j'achète une maison, une voiture à crédit, est-ce que ça c'est une dette? Est-ce que ça c'est défendu? Bonne question, je savais que vous alliez la poser, je la réponds. Une dette, c'est quoi? Une dette, une personne est endettée lorsqu'elle doit de l'argent à un particulier qu'elle ne peut pas payer. Ça c'est une dette. Par exemple, une facture non réglée ou un prêt non restitué. Vous êtes dans l'incapacité de payer, là c'est une dette, ça c'est pas bien. Psaume 37, 21, le méchant emprunte et ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. C'est la différence entre une dette et un emprunt. Un emprunt, c'est un souscrit auprès d'un organisme comme une banque qui fixe des modalités de remboursement basées sur la capacité de l'emprunteur de rembourser. Si je peux rembourser dans mon budget, alors là, on m'accorde l'emprunt. Si elle pense que je ne peux pas rembourser, alors elle n'accorde pas l'emprunt. Je rembourse par rapport à mon budget. Ça, c'est un emprunt. L'achat d'une maison, d'une voiture, bon, je prends qu'une voiture, c'est que, bon, ça c'est une autre question, mais disons, prenons l'achat d'une maison, d'habitude, une maison prend, d'habitude, je dis bien, prend une valeur. Donc ce n'est pas un mal, disons, d'acheter une maison, si on le peut. Si on peut réellement faire le remboursement. Et c'est sur cette base-là que le prêt est donné. Alors bien sûr, ça soulève tout le problème des cartes de crédit, par exemple. Aujourd'hui, on peut avoir des cartes de crédit, dépenser tout ce qu'on veut avec des taux d'intérêt très élevés. Et cela peut nous amener à un esclavage et d'une impossibilité de repayer vraiment nos dettes. Donc ça, c'est très dangereux. Il faut vraiment bien, bien contrôler ce genre de dépenses. Alors voilà, comment dépenser notre argent? Premièrement, en pourvoyant aux besoins de nos familles. Deuxièmement, en payant nos impôts. Troisièmement, en payant nos dettes. Quatrièmement, en donnant au Seigneur. En donnant au Seigneur. Dans cet ordre-là, on le verra tout à l'heure. On le verra tout à l'heure, d'accord? Mais en donnant au Seigneur, et ça c'est ce qu'on avait vu dans 1 Timothée 6, 18, « Recommande-leur ». À faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et ainsi de s'amasser pour l'avenir un trésor placé dans un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Alors, j'aimerais parler maintenant de ce sujet. Je trouve qu'il est très très important. Il y a beaucoup de confusion sur tout le domaine de la libéralité. Le mot libéralité, si vous ne le connaissez pas, c'est simplement un mot pour décrire lorsqu'on donne au Seigneur. Alors, je vais faire un survol. Bien sûr, on n'a pas le temps de regarder dans tout le détail, mais j'aimerais au moins vous présenter deux livres que je trouve excellents. Le premier par André Adoul, « Dieu et mes sous ». Très accessible, je pense qu'il est encore, on peut encore le trouver. Excellent bouquin, il explique très très clairement les choses. Et deuxièmement, un petit bouquin qui s'appelle « Donner selon Dieu » par John MacArthur, vraiment une étude excellente de nouveau sur le sujet de la libéralité. Donc je vous les recommande si vous aimeriez creuser plus tout ce domaine, mais moi je vais vous donner le survol ce matin de ce sujet de la libéralité. D'accord ? Alors, la première partie un peu technique, d'accord ? Donc il faudra essayer de suivre, d'accord ? La deuxième partie, on va prendre des principes néo-testamentaires qui vont être beaucoup plus simples à saisir, d'accord ? Alors, regardons la libéralité en premier dans l'Ancien Testament, d'accord ? Pour comprendre comment donner, pour comprendre déjà comment ça se passait dans l'Ancien Testament. Lorsque vous regardez l'idée de la libéralité dans l'Ancien Testament, il y a deux mots qui surgissent régulièrement. Le mot « dîme » et le mot « offrande ». D'accord ? Dîmes et offrandes. Souvent, ces deux mots, on les trouve en même temps. Alors, il faut comprendre la différence entre les deux, d'accord ? On va voir ce qu'on appelle premièrement les dons prescrits. Ça, c'est la dîme. Les dons prescrits et deuxièmement, les dons volontaires. Ok ? Suivez-moi. C'est simple une fois que vous suivez. Regardons en premier, dans l'Ancien Testament, les dons prescrits. Ce qu'on appelle la dîme, c'était les dons qu'on devait donner. Alors, déjà, pourquoi le mot dîme ? Tout simple, le mot dîme veut dire 10. Et puisque les hommes ont 10 doigts, depuis le début des temps, les hommes ont compté sur une base de 10. Alors, l'Ancien Testament, écoutez bien, nous parle de 3 dîmes prescrites, 3 dîmes obligatoires. La première, c'est ce qu'on appelle la dîme des Lévites, d'accord ? Nombre 18 et verset 21. « Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » C'est un verset qui résume, d'accord ? Il y a d'autres textes, mais on va juste résumer. Alors, cette dîme, le mot dîme est utilisé, était destinée aux Lévites. Et les Lévites étaient la tribu des prêtres et des sacrificateurs dans le temple d'Israël. Les Lévites n'avaient pas reçu l'héritage du terrain comme les autres tribus des terres. Ils ne pouvaient donc pas subvenir à leurs propres besoins, donc en la cultivant. Ces dîmes étaient une taxe de 10% imposée sur les autres tribus d'Israël afin de soutenir les Lévites dans leur travail de sacrificateur. C'était en fait rien d'autre qu'une taxe. C'était une taxe obligatoire imposée sur les récoltes, les fruits et le bétail. Selon Lévitique 27, on pouvait aussi garder les produits et donner et compenser avec un don financier plus un cinquième. Lévitique 27, 30 à 31. Alors, comme je dis, cette taxe était vraiment, cette dîme était vraiment une taxe. N'oublions pas que dans l'Ancien Testament, c'était une théocratie. Théocratie. Qui veut dire que c'est Dieu qui était quelque part le chef avec ce groupe de personnes qui menaient le pays. Et donc, ces prêtres devaient être rémunérés. Et donc, cette taxe imposée sur tout Israélite était là pour soutenir les prêtres. C'est la première dîme. Deuxième dîme. La dîme de la festivité au sanctuaire. Deutéronome 14. Deutéronome 14, à partir du verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira la semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est intéressant, il devait amener et venir manger devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisirait pour faire résider son nom. Jérusalem, la dîme de ton blé, de ton moût, de ton huile, de tes premiers-nés, de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Alors, c'était une deuxième dîme, mais celle-ci, on devait l'apporter à Jérusalem. La dîme des festivités du sanctuaire, elle devait être donnée chaque année, Deutéronome 14, 22, apportée à Jérusalem, 12-18. Elle devait être utilisée aussi pour un repas, Deutéronome 14-23. Et toute la famille devait y participer, ainsi que les serviteurs, Deutéronome 12-18 et 14-26. Et le but, c'était de manger et remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits et toute sa provision dans nos vies. Donc, il y avait la dîme des Lévites, deuxième dîme, la dîme des festivités du sanctuaire. Au fait, 10 plus 10, ça fait combien? On est déjà à combien de pourcents là? 20%. Hein? La première dîme, c'est 10%, la deuxième dîme, c'est 10%. Donc on est à 20% déjà. On continue. Il y avait la dîme maintenant des pauvres. Ça, c'était leur système de sécurité sociale quelque part. Deutéronome 26-12. 26-12, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année. Ah, très intéressant. Là, c'est encore une dîme, mais tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Voyez-vous, dans le pays, il y avait une certaine catégorie de personnes qui n'avaient aucun revenu et qu'il fallait aider. Dieu a pensé à tout, c'est génial. Alors, qui avait besoin de cette aide? Eh bien, déjà les Lévites, peut-être des Lévites, les Lévites aussi, ils deviennent vieux. Hein, lorsqu'ils avaient terminé leur service, ils avaient aussi la retraite. Mais il fallait les soutenir, ces gens-là. Ils devaient vivre quelque part, manger. Ils avaient des familles. Mais aussi les étrangers, les orphelins, les veuves. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette dîme devait être prélevée tous les 3 ans. Donc, si on réduit ça à une dîme annuelle, si on veut, ce serait 3,33% par an. On est d'accord? Vous me suivez? Donc, on a combien maintenant? 23,3% par an déjà. Mais il y avait encore d'autres taxes. On ne va pas regarder dans les détails, mais il y avait le coin des champs pour l'indigent. Dans Lévitique 19, 9 à 10, il est dit que lorsqu'on faisait la moisson d'un champ, on devait laisser des parties intouchées, le coin, pour que les pauvres viennent eux-mêmes se servir. C'est ce qu'on appelle le glane dans la Bible. Il y avait encore la taxe du temple dans Néhémie 10, 32 et 33, cette taxe de 1/3 de sicle par année imposée annuellement pour le service du temple. Ce n'était pas un grand montant, mais c'était quand même un montant. Et il y avait encore une taxe, le repos de la terre tous les 7 ans. Vous savez que tous les 7 ans, parce que vous n'avez pas tous les engrais aujourd'hui qu'on a pour faire revivre la terre, ils devaient, tous les 7 ans, rien n'était cultivé dans le champ. Donc c'était une perte quelque part. Alors ils ne le percevaient pas comme une perte, mais comme une dîme, comme une offrande au Seigneur. Tous les 7 ans, je t'offre mon champ, Seigneur, afin qu'il se repose, pour qu'il soit cultivable mieux l'année d'après. Alors là, on est déjà à 6 dons exigés par Dieu. Alors, on a sur 23,3%, plus ces 3 dernières. Allez, on va arrondir à 30%. 30% du salaire dans l'Ancien Testament devait être donné. Ça, c'était exigé. Mais ce n'est pas fini. Parce que ça, c'est ce qu'on appelait les dons exigés ou les dons prescrits dans l'Ancien Testament. Mais il y a un deuxième type de dons dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les dons volontaires. Les dons volontaires. Et là, par exemple, dans 1 Chronique 29, 6 à 9, David veut construire le temple, c'est Salomon finalement qui le construira. Mais donc, il demande aux gens d'apporter leurs dons. Alors là, ce ne sont pas des dons prescrits, c'est un don volontaire. En Chronique 29, 6, les chefs de la maison paternelle, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milieux des centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes et ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Verset 9, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Donc en plus des offrandes prescrites, il y avait ces offrandes volontaires. Ça, c'était incompté. Peut-être le texte le plus connu dans l'Ancien Testament, et j'aimerais vous y aller, c'est dans Malachie 3, où on revoit ce terme, en fait les deux termes ensemble, dîme et offrande. Regardez, Malachie 3, 7, et là, malheureusement, ce texte est souvent utilisé, et à tort, pour prescrire la dîme aujourd'hui dans l'Église. Moi, je pense que c'est faux, vous allez comprendre pourquoi. Mais voici le texte, Malachie 3, 7. « Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. » Vous ne les avez point observés, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si j'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alors ce texte est souvent utilisé pour dire, mais écoutez, donnez la dîme, donnez 10% et Dieu va vous bénir. Problème. Il y a deux termes utilisés, dîme au pluriel et offrande. Les dîmes, c'était quoi? Ben, c'était les 30% qu'on a déjà vu, c'était ce qui était obligatoire, c'était les taxes quelque part. Et en plus, il y avait les offrandes. C'est ce qu'on appelle la partie de liberté. L'offrande volontaire, au-delà des 30%. Et ça, c'est rarement expliqué lorsqu'on parle de donner. Alors, j'espère que là, on voit maintenant mieux ce qu'est la libéralité dans l'Ancien Testament. Il y avait une partie qui était exigée et la partie d'offrande volontaire. Alors maintenant, passons au Nouveau Testament. Ça, c'est nous. On est dans le Nouveau Testament, d'accord? L'âge d'aujourd'hui. Ben, c'est exactement pareil. Il y a deux types de dons. Il y a les dons prescrits et les offrandes volontaires. Alors, premièrement, regardons les dons prescrits dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous sommes obligés de donner dans le Nouveau Testament? Alors, la question maintenant que se pose, est-ce que la dîme est prescrite? Est-ce que nous devrions donner 10% de notre salaire à l'Église? C'est ce qui est souvent dit. Alors, l'argument qui est souvent donné pour soutenir cette thèse se trouve dans Genèse 14 et aussi Hébreux 7. C'est l'histoire d'Abraham. D'accord? Alors, allons vite à Genèse 14. Tenez encore, puis ensuite on va rentrer dans une partie un petit peu plus simple. Mais là, tenez bien parce que c'est intéressant. Genèse 14... Il y a l'histoire d'Abraham et un nommé Melchizedek. Il est dit ceci. Verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à la rencontre dans la vallée de Chavet et la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin et il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Donc Abraham venait de gagner une bataille, donc il bénit le Seigneur pour ça. Et regardez le verset 20. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bon là c'est clair. Il donne 10% de tout. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ben pour comprendre, il faut aller à Hébreux 7 qui interprète le texte. Alors, allons maintenant à Hébreux 7 pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Et là, on voit l'importance d'être précis lorsqu'on lit des textes. Regardez ce qu'il dit. Hébreux 7, 1. En effet, ce Melchizedek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et le bénit. Et encore, il répète la chose. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors là, il y a un auteur nouveau testamentaire qui cite Genèse 24, qui parle de la dîme. Là, on a l'impression que peut-être la dîme, c'est juste. Mais continuons à lire. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification, etc. Regardez verset 4 maintenant. Hébreux 7, 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme. De quoi? Du butin. Du butin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Abraham, ce jour-là, a donné 10% de tout ce qu'il avait? Non. Abraham a gagné la bataille, ils ont pris le butin, et il a donné 10% du butin récolté. C'est très différent que la dîme de tout. Autre chose, personne n'avait exigé à Abraham de donner ses dîmes. C'était spontané, c'était une offrande volontaire. Il décida de donner 10% du butin. Et ce qui est intéressant, le mot veut littéralement dire le dessus, le haut du tas. C'est le haut, c'est la partie 10% du tas du butin. Cet incitant est exceptionnel dans le Nouveau Testament. En plus, il cite quelque chose dans l'Ancien Testament. Mais clairement, cet incitant parle et révèle un don, une offrande spontanée de la part d'Abraham. Donc, on ne peut pas utiliser Hébreux 7 comme justification pour imposer 10%. Alors, comment comprendre la dîme ou l'offrande prescrite dans le Nouveau Testament si on ne peut pas utiliser Hébreux 7? J'espère que vous me suivez là, d'accord? Eh bien, je vais vous surprendre. Quel est le don prescrit par Dieu pour nous dans le Nouveau Testament? Eh bien, chaque chrétien doit obligatoirement donner une partie de son salaire dans la forme d'impôt. D'impôt. Voyez-vous, la théocratie dans l'Ancien Testament devait être soutenue par ces fameux 23,3%, voire 30%. Impôt prescrit dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus de théocratie. Nous avons d'autres formes de gouvernement, mais nous sommes appelés à payer des impôts pour que ces gouvernements fonctionnent. Et ça, c'est l'équivalent des 30% dans l'Ancien Testament. C'est la partie prescrite. Et nous avons vu dans Hébreux 13 que nous soutenons l'œuvre de Dieu lorsque nous payons nos impôts, n'est-ce pas? Parce que les magistrats sont là de la part de Dieu. C'est intéressant. OK. Donc ça, c'est la partie obligatoire, nos impôts. Eh bien, comme dans l'Ancien Testament, il y a ensuite la partie des offrandes volontaires. Dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament. On paye nos impôts à l'État, nous soutenons quelque part l'œuvre de Dieu, Romains 13, mais en plus, nous donnons maintenant nos offrandes volontaires. Alors, quels sont les principes dans le Nouveau Testament des offrandes volontaires? Est-ce que tout le monde me suit là, ça va? D'accord. Maintenant, on rentre dans la partie facile. Donc, vous pouvez vous décompresser un petit peu, d'accord? Ça, c'est vraiment intéressant. Quels sont les principes évoqués dans le Nouveau Testament en ce qui concerne les offrandes volontaires? Alors, il y en a 10, je ne les ai pas mentionnés là sur le PowerPoint, mais vous allez voir, et je pense que vous connaissez très bien ces textes. Premièrement, alors les principes néo-testamentaires, puisque nous venons de montrer que le 10% n'existe pas dans le Nouveau Testament. On ne peut pas dire qu'il faut donner 10%, on ne peut pas le montrer bibliquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut donner, alors, dans ce cas-là? Bon, on paye nos impôts et... Voici ce qu'on va faire. Numéro 1. Philippiens 4:18. Numéro 1. La libéralité est considérée par Dieu comme un acte d'adoration. Lorsque vous donnez votre offrande volontaire au Seigneur, c'est un acte d'adoration. Philippiens 4:18. Nous lisons ceci, « J'ai tout reçu, dit Paul, parce qu'il a reçu un don de la part de l'église de Philippe. J'étais comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Ah, c'est beau ça. Le cadeau financier qu'il a reçu, il était missionnaire, c'était un... beau parfum, un parfum de bonne odeur. Un sacrifice agréable à Dieu. Peut-être certains peuvent se dire, mais pourquoi est-ce qu'on passe le dimanche matin des corbeilles pour récolter les fonds? Alors, ça n'a rien à voir avec une manipulation quelconque. C'est parce que nous percevons l'offrande comme un acte d'adoration. Et puisque nous nous réunissons le dimanche matin pour adorer le Seigneur, par le chant, par la parole, eh bien nous le faisons également par l'offrande. C'est une partie intégrale de notre culte. Hébreux 13, 16 le dit comme ceci, « N'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, car c'est là que tel sacrifice que Dieu prend plaisir. » Dieu est heureux lorsque nous sacrifions et donnons au Seigneur. 2. La libéralité n'appauvrit pas celui qui donne, comme le voudrait la logique, mais l'enrichit. La libéralité n'appauvrit pas celui qui donne, comme le voudrait la logique, mais l'enrichit. Verset 19 de Philippiens 4, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il dit, « Vous avez sacrifié pour me donner de l'argent. » Paul dit, « Dieu va vous bénir en retour. » Donc, ils n'ont pas été appauvris, ils ont été enrichis par les bénédictions de Dieu. Alors, je pose la question, est-ce que ça, on y croit vraiment? Est-ce que ça, vraiment, on y croit? Que Dieu bénit celui qui est généreux. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu va nous rendre riches? Ah, ben, c'est super, c'est un investissement. Je donne, il m'enrichit. Hein, c'est peut-être pas ce qu'il est en train de dire, d'accord? Non, mais il dit qu'il pourvoira à tes besoins. Tu dis, je donne pas, bon, allez, je prends un risque, j'y donne, Seigneur, waouh, pourvois mes besoins. Il pourvoira aux besoins. C'est ce qu'il est en train de dire. 2 Corinthiens 9, 6 le dit comme ceci. 2 Corinthiens 9, 6, sachez que celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et encore, Luc 6, 38, ça c'est Jésus qui en parle, moi je trouve ce verset absolument époustouflant. Luc 6, 38, où il dit, « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Troisième principe. Chacun doit donner selon sa prospérité, selon ses moyens. 1 Corinthiens 16. Chacun doit donner selon sa prospérité et selon ses moyens. 1 Corinthiens 16, 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui, écoutez bien, ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est intéressant. Le montant que nous sommes appelés à donner n'a rien à voir avec la dîme. N'a rien à voir avec la dîme ici, non. Mais cela a tout à voir avec notre prospérité personnelle. Tu donnes conforme à ta prospérité. C'est aussi simple que ça. Pour certains, 10%, c'est une goutte d'eau. Pour certains, 50%, ce serait peut-être une goutte d'eau. Pour certains, 10%, c'est presque une ruine personnelle. On est libre par rapport à notre prospérité. En Corinthiens 9, 7 dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. C'est toi qui décides, dans ton cœur, selon ta prospérité. C'est aussi simple que ça. 4. La vraie libéralité implique un sacrifice, et ça on l'a déjà vu, Hébreux 13, 16, il y a un sacrifice, car, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est vrai, la libéralité, c'est un sacrifice. Moi des fois je me dis, c'est comme si j'avais, je sais pas, un troupeau de moutons, et j'amenais mon mouton, là on verrait vraiment le sacrifice. Ben c'est un peu pareil, l'argent, bon, on le sacrifie, on le donne. C'est un sacrifice. Il y a un sacrifice dans la libéralité, mais que Dieu, on a déjà vu, béni. 5. La pauvreté n'exempte pas le chrétien du privilège de donner. Certains pourraient dire, John, tu comprends pas, moi je suis vraiment fauché. Je ne peux pas donner. 2 Corinthiens 8, 2. Paul écrit aux Corinthiens, il dit, à travers la grande épreuve de leur affliction, parlant des églises à Macédoine, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Ils ont, j'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Écoutez, l'Église de Macédoine était pauvre, et pourtant, elle a donné, au-delà même de leurs moyens. Quel bel exemple. Souvent, les gens disent, « Ah, si j'avais plus, je donnerais plus. » Vraiment ? Vraiment. Un bon test, c'est avant d'avoir plus, donner déjà par rapport à ce qu'on a. Ça, c'est un bon test. Moi, je dis souvent aux nouveaux chrétiens, quand je parle avec eux, parce que là, toute l'histoire de l'argent, ils disent, « Wow, là, on rentre dans quoi ici ? Je dois donner, je ne dois pas donner. » Une fois qu'ils comprennent les principes, moi, je dis souvent, tu sais, si tu veux vraiment commencer avec la libéralité, commence avec un franc. Un franc par semaine de manière régulière. Ce n'est pas beaucoup, un franc, pour certains. Mais au moins, on apprend à donner. Puis avec le temps, peut-être la personne ira, « Ouais, tu sais, mais moi, je peux donner une thune, en fait. Je peux vraiment, je crois, donner une thune. » Alors, peut-être qu'il donnera une thune. Mais l'idée, c'est de commencer avec quelque chose. Et même si on est très pauvre, de donner quelque chose au Seigneur, c'est quelque chose de libérant et de merveilleux. 6. La libéralité devrait se faire d'une façon régulière et systématique. Régulière et systématique. 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Donc, quand le premier jour de la semaine. Voilà encore pourquoi nous faisons une collecte, une offrande, le dimanche matin, le premier jour de la semaine. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit. Le premier jour de la semaine, mette à part où ? Pas à l'église, chez lui. Il ne faut pas attendre de venir ici. Vous savez que l'offrande va... Oh, il faut vite que... Vous allez vite chercher dans vos poches, voir s'il y a un petit quelque chose. L'idée ici, c'est non. Il faut que ça soit réfléchi. N'attends pas le coup d'émotion. Non, va chez toi, le premier jour de la semaine, mets à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut jamais que la libéralité vienne d'un coup de cœur. Il faut que ça soit selon notre budget, clairement réfléchi devant le Seigneur. Très important. Donc si vous n'avez pas réfléchi, le panier passe, laissez-le passer. Laissez-le passer. Cela montre aussi l'importance d'avoir un budget. 7. La libéralité devrait être préparée à la maison et non à l'église. Bon, je viens de le dire, il y a deux choses ici. De manière systématique, c'est chaque dimanche, et ici, préparée à la maison et non à l'église. Et ça, c'est important, parce que Paul, qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Pourquoi ? Voilà, imaginez, l'apôtre Paul arrive. Vous dites, oh, c'est l'apôtre Paul, et il fait une collecte. Eh bien, émotionnellement, vous allez dire, bon, ben, c'est le porte-parole de Dieu, il faut vite que je donne quelque chose, quoi. Et lui, justement, il ne veut pas être manipulateur. Il ne veut pas que sa présence en tant qu'apôtre manipule les gens à donner plus qu'ils auraient vraiment dû donner. Donc, il dit, préparez-vous à la maison avant mon arrivée. Quand j'arrive, c'est clair et net, c'est déjà préparé. Donc, ce n'est pas émotionnel. Et ça, c'est le principe important ici. 8. La libéralité devrait produire la joie dans ton cœur et non la tristesse. D'accord ? Ça, c'est un très bon principe. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez ce que ça veut dire ? Si tu ne peux pas donner avec joie, donne pas. Donne pas. Si chaque fois que tu donnes, tu dis... C'est nul de l'avoir donné. C'est peut-être pas la meilleure attitude. Ici, il dit non, fais-le avec joie. Si tu prépares à la maison, et si ton offrande est vraiment un acte d'adoration et que tu l'amènes au Seigneur et tu te réjouis et quand le plat passe, ah Seigneur, tiens, je te donne ce que j'ai préparé à la maison, ça devient un sujet de joie, pas un sujet de contrainte et de frustration. Là, j'aimerais vraiment donner crédit à mon épouse. Moi, quand on s'est marié il y a 26 ans en arrière, moi, j'étais ce que j'appellerais un chrétien radin. D'accord ? Ça, c'était vraiment moi. J'épousais une femme qui avait un élan de générosité. Et ça, elle m'a tellement appris à ce niveau. C'est incroyable. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup plus à vouloir être généreux. Quoi. J'aime donner à des situations qui sont vraiment utiles. Quoi. Alors, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Ça, c'est évident. mais elle m'a tellement aidé. Et c'est une discipline qu'on apprend. Je ne sais pas si j'aurais dû dire ça, en fait. Ben là, c'est mon cœur qui parle, alors ça, c'est peut-être mal compris, mais vraiment, quoi, je remercie le Seigneur pour mon épouse et pour comment elle m'a aidé dans ce domaine, vraiment. 9. Si tu n'es pas fidèle avec les richesses matérielles que Dieu t'a données, Dieu ne te confiera pas non plus des richesses spirituelles. Très intéressant, il y a un lien, on ne va pas le développer, bien sûr. Regardez ce que Jésus dit, Luc 16, 11, il dit quoi ? Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera des véritables ? Dieu évalue notre spiritualité et notre capacité de servir dans l'Église par rapport à la manière qu'on a géré nos biens terrestres. C'est intéressant quand même, hyper intéressant. Et dernièrement, la libéralité commence avec le don de soi-même avant même de donner autre chose au Seigneur. Dans 2 Corinthiens 8, 5, il a dit quoi ? Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérerions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Je veux dire quelque chose. Dieu veut toi bien plus qu'il veut ton argent. Étant généreux avec Dieu, montre que tu lui appartiens. Donc si tu ne connais pas le Seigneur, si tu as un doute par rapport à ta relation avec le Seigneur, c'est ça que Dieu veut, avant toute autre chose. Il veut ton cœur. Il veut que tu dises, oui, je veux Christ comme Sauveur et Seigneur. Je veux que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Maître de la vie. Et une fois que tu es donné à Christ, sois généreux avec lui. Mais la priorité, c'est toi. Alors, je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous tenez un budget à la maison. Moi, j'ai réalisé que, de mon côté, quand je reçois mon salaire, si je prends soin de la première part donnée au Seigneur, après, ça va super bien. Mais si je dépense tout ce qu'il faut, puis à la fin, je me dis, ah ouais, c'est vrai, il faut donner au Seigneur, il y a une contrainte. Donc je crois qu'il y a une habitude à prendre. Donner vraiment au Seigneur, selon nos moyens, bien avant de venir ici au culte. Et que le Seigneur, mes amis, nous bénisse et nous bénisse encore, parce que nous avons été généreux avec lui. Amen. Seigneur, merci de tout cœur pour la parole de Dieu. C'est vrai que c'était un sujet un peu lourd, un peu complexe peut-être. Mais Seigneur, nous voyons le cœur qui est le tien. Quelle liberté nous avons en Christ. Seigneur, je te prie qu'aucune personne ici se sente contrainte, manipulée émotionnellement. Non, Seigneur. Qu'elle se sente libre devant le Seigneur. Tu connais les besoins, tu pourvois. Et pour cela, nous te glorifions. Merci, Seigneur, pour le pays dans lequel nous vivons, pour la richesse que nous avons. Seigneur, aide-nous à bien gérer ces richesses. Et nous t'en remercions. Au nom de Jésus-Christ.